Demoiselle Midi, l'info d'ici.
Bonjour à tous. Un dramatique accident de la route à Thonon-Charente. Il s'est produit jeudi soir vers 23h, la veille du 1er mai, sur la RD 739. Un camping-car a mortellement percuté un piéton qui a traversé la route sur une portion de chaussée non éclairée. La gendarmerie a ouvert une enquête pour en savoir plus sur les circonstances de cette collision. À Rochefort, deux lycéennes de Jamin placées en garde à vue jeudi dernier après avoir introduit un couteau dans leur établissement secondaire. L'une des deux avait demandé à sa copine de tourner une vidéo de vengeance après un dépit amoureux. Après avoir été entendues par les policiers, elles ont été remises en liberté. Un cerf sans tête et des viscères retrouvés dans la nature à Lorignac, au sud du pays royonnais, l'association Future, spécialisée dans la protection des animaux, a déposé plainte la semaine dernière auprès du procureur de la République de Saintes. Elle fait suite à la découverte en octobre et février dernier d'un cadavre de cerf sans tête et des viscères de gibier. Vuc, responsable enquête et production pour l'association.
Une habitante qui promenait son chien et qui est tombée à plusieurs reprises. La première fois sur un cadavre de cerf avec la tête coupée. Donc en général, quand on tombe sur des cadavres de grands cerfs avec la tête coupée, c'est souvent un acte de braconnage parce que les braconniers, les chasseurs prennent le trophée en fait des cerfs. Et là, c'était pas du tout un cas où la viande a été récupérée. Vraiment, le corps était totalement entier. Donc cette même personne a téléphoné tout de suite à la gendarmerie, à l'OFB, etc. Donc le corps de l'animal a été récupéré, a été retiré avec un tracteur. Et quelques semaines plus tard, elle est tombée sur tout un charnier de différentes espèces animales. Donc en pleine nature, des organes un petit peu partout, des pattes, vraiment des restes en fait. Donc là, c'est vraiment la viande qui a été prise et tous les restes ont été jetés directement dans la nature. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Elle est revenue quelques jours plus tard à proximité de ce même charnier et là, elle a trouvé de nouveaux animaux dans ce même charnier. Donc c'est des faits qui sont assez répétitifs. Ça se passe à peu près au même endroit, dans la même zone.
Pour Jean-Bernard Delarquier, vice-président de la Fédération départementale des chasseurs de Charente-Maritime, il ne s'agit pas de chasse, mais d'actes de braconnage.
C'est du braconnage. Les gens qui font un chasseur digne de ce nom, il se permet pas d'abattre un animal et de le laisser pourrir dans la nature. Là, ce sont des gens, en fait, qui commercialisent les trophées. Donc, ils abattent un joli cerf pour vendre le trophée. Alors, c'est voilà, en pleine nature, c'était pas un cadavre. En fait, c'est ce qu'on appelle les délivres. C'est-à-dire, on a retrouvé ce qu'on appelle les déchets de venaison. Quand vous dépouillez un animal, ben, il reste la tête, le bout des pattes et les peaux et les viscères. Voilà. Donc, si vous voulez, un animal qui est tué, c'est normal, on le dépouille dans un acte de chasse bienveillant. On fait ça dans un local de chasse. Et ensuite, tout ce qu'on appelle donc ces délivres de venaison, eh bien, elles sont soit enterrées pour pouvoir être décomposées avec de la chaux vive, soit elles sont envoyées à l'écarissage, au traitement pour faire des farines animales ou des choses comme ça.
Sur Internet, des trophées de tête de cerf peuvent atteindre des centaines, voire des milliers d'euros, en fonction du nombre de cornes. Sur l'agenda, à Chagnier, l'établissement français du sang organise une collecte cet après-midi de 15h à 19h à la salle des fêtes. Bien pour la qualité, beaucoup moins pour la quantité, le président de la CARO, Hervé Blanchet, a fait le point sur Oceana Lumina, dont le contrat d'exploitation est arrivé à échéance au cours du dernier conseil communautaire. Après 5 années de fonctionnement, le parcours nocturne au sein de l'Arsenal des Mers ne s'allumera plus. Questionné par des élus d'opposition Rocheforté, Fabrice Vernier et Romain Monroux, Hervé Blanchet est revenu sur ce que certains élus ont qualifié de flop ces dernières années. Pour Hervé Blanchet, ça n'en est pas vraiment un. Il souligne la qualité du parcours tout en reconnaissant la trop faible fréquentation liée surtout aux horaires d'été trop tardifs.
La qualité n'est pas remise en cause, vraiment. Et Maman Factory a démontré à Rochefort ou ailleurs qu'ils savent faire des spectacles de qualité. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'il faut, la nuit. Et l'été, la nuit arrive tardivement. Donc les créneaux étaient complets sur une première partie de la soirée. Mais la seconde partie de la soirée, il n'y avait personne parce que c'était trop tard. Donc les gens ne venaient pas. Et on n'a pas eu la possibilité, à cause de l'État, on ne va pas se mentir, hein, l'inspection des sites, on n'a pas eu la possibilité de laisser notre matériel de spectacle en place jusqu'à la fin de l'année. hormis la première année où on a pu faire un spectacle à Noël, le maintenir pour Noël, où il y avait vraiment du monde parce que la nuit était à 18h. Là, on nous a dit non, vous nous enlevez tout le matériel. Donc on n'a pas pu aller sur un terrain économique plus lisible et plus performant ou pertinent parce qu'on n'avait qu'une période vraiment très courte l'été. Voilà, je pense que c'est ça qu'on n'a pas perçu aussi, que la nuit tomberait évidemment plus tard l'été, qu'il y aurait moins de monde à cause de ça.
Pour la suite, Hervé Blanchet reste particulièrement prudent. Y aura-t-il une autre attraction ? Ça dépendra des finances et de l'Hermione.
L'après, il est déjà là. L'arsenal, il n'a pas bougé. Les formes de radou sont là. On peut se balader dans l'enceinte, dans le site, il est beau. Il y a la Chroma, il y a la Corderie Royale, il y a le musée de la Marine. C'est pas rien tout ça déjà. Voilà. Après, on va attendre l'issue de ce qui se passe avec l'Hermione pour imaginer peut-être autre chose. Et puis, vous savez, les temps sont quand même compliqués à l'heure actuelle sur les finances publiques. On ne va pas s'aventurer avant de stabiliser ce qu'il en est de nos finances aussi.
80 000 visiteurs ont parcouru Oceana Lumina pendant les 5 années du parcours nocturne. Pour être dans les clous, il aurait dû en attirer environ 150 000. De l'activité dans le ciel de Saint-Agnan cette semaine, l'aéroport accueille l'équipe de France de voltige aérienne jusqu'à jeudi avec des entraînements en journée. En soirée, plusieurs avions évolueront dans le cadre d'exercices militaires aériens, du parachutisme aussi au programme demain et mercredi. À Saint-Georges-des-Coteaux, près de Saintes, des vestiges archéologiques découverts au parc Centre-Atlantique. La deuxième tranche de fouilles préventives du site a été assurée par le bureau d'études EVA et elle a permis de faire quelques belles découvertes sur une parcelle de 6500 m². Les archéologues ont retrouvé les tracés de fossés proto-historiques de l'époque gauloise ou antique, moins 50 à 500. Ils ont notamment trouvé deux sépultures qui datent pour l'une de l'époque moderne, pour l'autre de l'époque mérovingienne. Loïc Mazou, responsable scientifique d'opération pour EVA.
Ce sont toutes deux des sépultures isolées dans la partie nord du site, qui est une sépulture probablement mérovingienne en raison de la présence d'une fibule qui serait datable en fait de cette période. Donc c'est assez rare en fait de retrouver du matériel dans les sépultures de cette période-là. Bon là on a trouvé une fibule qui permettait en fait d'accrocher un vêtement sur la personne et on a trouvé une deuxième sépulture qui est un petit peu plus originale puisqu'en fait c'est un dépôt secondaire. Un réenfouissement de restes humains qui a été pratiqué dans un petit sarcophage qui probablement a été taillé à la hâte. On a un niveau de finition qui est assez médiocre. On a encore toutes les traces d'outils, les traces de débitage grossier en fait du bloc calcaire. Et dans ce petit sarcophage, on a retrouvé au moins deux individus. Donc les os étaient allongés comme dans une boîte. On a retrouvé deux individus qui ont fait l'objet en fait d'un réenfouissement a posteriori. Donc pour l'instant, on n'a pas la datation exacte des corps qui se trouvent à l'intérieur de cette boîte. Donc c'est peut-être en fait des corps plus anciens que le moment en fait où on a réenterré les corps. Mais en tout cas, ce dépôt secondaire a eu lieu grosso modo pendant la période moderne.
Les fouilles au parc Centre-Atlantique ne datent pas d'hier, on savait déjà que les lieux étaient occupés, mais les dernières découvertes confirment ces connaissances.
Il y a eu déjà des premiers diagnostics qui avaient été faits par l'INRAP dans les années 2000. Puis, dans les années 2010, d'abord l'INRAP avait fouillé aussi une partie de la ZAC des Coteaux. Ensuite, EVA donc, était intervenu dans les années 2010, aux alentours de 2015, pour un chantier donc, de 19 hectares qui avait révélé une occupation dès la période néolithique. Puis ensuite une occupation donc à l'époque proto-historique et à l'époque gallo-romaine. Et puis un petit peu comme nos découvertes, les vestiges en fait allaient jusqu'à la période moderne. Et donc là on est en fait on est dans la suite de cette parcelle de 19 hectares qui avait été fouillée par EVA. Et on est vraiment à l'extrémité du site archéologique, on peut dire. Et donc ça complète le panel de vestiges, l'occupation quand même relativement dense de la zone. Et donc là, ça nous apprend aussi qu'il y avait une occupation médiévale grâce à l'une des sépultures et potentiellement grâce aussi à la deuxième. Et ça nous renseigne aussi sur les pratiques funéraires, notamment avec la découverte de ce petit sarcophage, ce dépôt secondaire en fait qui a été retrouvé là sur la parcelle que j'ai fouillé.
Des fouilles qui ne sont pas encore terminées puisqu'un autre chantier archéologique se déroule en ce moment sur une autre parcelle de 8 hectares jusqu'à fin mai. Un site avec le passage d'une voie romaine et des vestiges de l'époque gauloise, le site est prometteur, dit Loïc Mazou. La suite du journal avec Emmanuel Bidot et ses invités dans un instant.
Demoiselle Midi, l'info d'ici.
Il est midi 18 sur Demoiselle, la suite du journal.
Demoiselle, l'invité du journal.
Avec nous dans ce studio, Marie-Pierre Labrogère, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes la présidente de l'ARCEF de Rochefort. Et Michel Bord, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du souvenir napoléonien, président de la délégation Poitou-Charentes, c'est ça?
C'est cela.
On parle ensemble de votre mobilisation pour le printemps des cimetières. Là, on peut dire que vraiment, vous avez mis le paquet concernant les illustres du cimetière civil de Rochefort. Vous présentez un guide et vous allez inaugurer des plaques mercredi prochain, des plaques d'information sur les tombes des illustres de la ville. Pourquoi vous avez décidé de lancer cette initiative?
Alors l'ARCEF est présente dans le cimetière depuis de nombreuses années et en 2012, sous la présidence de Jacques Nompin, des plaques émaillées ont été implantées auprès des monuments funéraires d'une dizaine de marins, dont les plus célèbres sont notamment les frères Lesson, le lieutenant Belot, afin de célébrer et faire connaître ces personnages illustres du 19e siècle.
Ce sont des illustres qui ont des noms de rue, mais on ne les connaît pas forcément. On dit toujours la rue Lesson.
Voilà, la rue Cochon du Vivier. Et on ne connaît pas finalement qui sont ces personnages et ce qu'ils ont apporté à la ville de Rochefort. Et donc nous avons décidé en 2024 de prolonger ce travail qui avait été mené en 2012 par des plaques concernant les médecins, les pharmaciens, les hygiénistes et les édiles qui ont fait de Rochefort une ville importante au 19e siècle.
Alors Michel Bord, vous êtes délégué Poitou-Charentes du souvenir napoléonien. Expliquez-nous comment vous avez travaillé sur ces recherches.
Alors le souvenir napoléonien est une association déclarée d'utilité publique depuis 1982, mais qui a été créée en 1937 par une filleule de l'impératrice Eugénie, Madame Eugénie Gall, et qui s'est fixée pour objet de faire connaître l'histoire du consulat et des deux empires. Et dans notre ville de Rochefort, eh bien, évidemment, il y a matière, puisque c'est Napoléon Ier qui a achevé la construction de l'arsenal de Rochefort décidé par Louis XIV. Et donc, le thème de travail de l'année 2025 étant d'approfondir les connaissances que l'on pouvait avoir de ceux qui avaient fait l'école de médecine navale, de ceux qui avaient fait l'école de chirurgie, des hygiénistes, des officiers de santé qui non seulement s'étaient investis dans leur fonction de marin et de marin médecin, hygiéniste, officier de santé, mais qui aussi baignaient d'idées des Lumières, se sont intéressés à leurs contemporains et ont travaillé à améliorer l'hygiène, lutter contre les épidémies, travailler sur l'adduction d'eau de la ville et donc toute l'amélioration des conditions de vie sur le plan de la santé, sur le plan de la lutte contre les épidémies, surtout dans une ville qui était entourée de marécages et qui, du fait des apports notamment des marins, pouvait aussi être touché par toutes sortes d'épidémies, de difficultés de cette nature. Et donc c'est eux qui ont aussi travaillé à l'évolution des conditions d'hygiène et de vie pour la ville. Certains d'ailleurs en sont devenus les maires ou les députés ou les représentants nationaux. C'est le cas d'un des plus célèbres d'entre eux, qui est Pierre Cochon du Vivier, qui a été membre pendant 13 ans du corps législatif et qui, à ce titre, a signé la proclamation de l'empereur Napoléon Ier, empereur des Français, puisque article 1er, la République avait décidé se confier à un empereur dénommé l'empereur des Français. Et Cochon du Vivier, donc au titre de député de la Charente inférieure, a signé cette proclamation.
Marie-Pierre Labrogère, vous me parliez également de Maher.
Oui,
c'est... changé dans le quotidien.
Voilà. Alors Maher est un médecin qui fait partie de nos personnages, qui a mené des études statistiques sur la population de Rochefort, mais aussi sur les marins embarqués, et qui a montré que au début du 19e siècle, l'espérance de vie à Rochefort était de 19 ans et quelques mois. Et qu'à partir de 1850, la moitié du siècle, suite à tous ces travaux d'assainissement dont parlait Michel Bord tout à l'heure, eh bien, l'espérance de vie est passée à 39 ans et quelques mois. Donc, on voit l'amélioration que tous ces personnages ont apporté aux conditions de vie à Rochefort.
Parlons de ce qu'il va se passer mercredi. 15 plaques inaugurées, c'est ça ?
Alors, on va inaugurer les 15 nouvelles plaques et en présence de Madame Campodarve et aussi de tous ceux qui, dans la ville de Rochefort, au musée de la Marine, au service historique de la Défense, enfin tous ceux qui nous ont apporté leur aide et leur collaboration, puisque ça n'est que grâce à eux qu'on a pu produire ce document. Et puis aussi, j'insiste, grâce aussi au soutien, notamment financier, du souvenir napoléonien, qui nous a permis de réaliser ce guide.
Et donc maintenant, très concrètement, grâce à ce guide, on se promène dans le cimetière et on en apprend plus sur les illustres.
Voilà, et puis si on en a envie, on peut aussi se référer aux sources que nous avons consultées pour en savoir plus en général sur tous ces personnages que je trouve pour mon goût fascinants.
Des personnages fascinants que l'on peut découvrir également dans le cadre de visites guidées à partir de jeudi, c'est ça ?
Voilà, alors de visites guidées, disons de visites à la demande, on peut accompagner les personnes qui seront présentes au cimetière. Nous y serons le matin de 10h30 à 12h et l'après-midi de 14h30 à 16h.
Comment fait-on pour réserver ?
On n'a pas besoin de réserver, on se présente à l'entrée du cimetière, il y a une petite guérite sur la droite de l'entrée où nous y serons.
Et on vous retrouvera sans problème.
Voilà.
Merci à vous deux.
Merci.
On passe Merci. Maintenant aux nouvelles du ciel.
Des nouvelles du ciel avec Météo de la Charente-Maritime. Pour des prévisions locales fiables sur notre département, rendez-vous sur la page Facebook Météo de la Charente-Maritime.
Et ça se gâte, Pierre.
Exactement, Emmanuel. En effet, pour cet après-midi, attention, si vous êtes sur les routes, une ambiance plus instable attendue, avec quelques orages qui pourraient se développer, parfois accompagnés d'averses soutenues. Les températures, elles restent toujours douces, hein, avec 16 à 17 degrés sur toute la Charente-Maritime. Pour demain mardi, encore quelques gouttes avec un vent d'ouest qui va souffler aux alentours des 45 km/h. Selon Météo France, retour d'un temps plus ensoleillé. Visiblement, ça sera pour jeudi.
Chez Optique 2000, on voit bien que vos lunettes ont la vie dure. Glissez en vitesse dans votre sac à main, nettoyez avec votre pull qui gratte un peu trop, et parfois vos lunettes sont posées au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors avec le service entretien et réparation, nos opticiens prennent soin de vos lunettes pour qu'elles durent plus longtemps. Optique 2000, on va se revoir. Voir conditions et tarifs en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
Votre opticien Optique 2000, deux adresses à Rochefort, 64 rue de la République et Centre Commercial Leclerc.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, excellente journée sur Demoiselle.
Retrouvez toute l'info d'ici sur demoisellefm.com.